Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct et comme à l'habitude, deux parties. Nous recevons tout d'abord à 18h Xavier Driancourt, ambassadeur de France pour la publication de son livre L'Algérie 1830-2026, Vérités et légendes. On pourrait presque ajouter vérités et mensonges ainsi que les légendes. Nous allons donc évoquer ce livre avec vous, chers auditeurs. Et puis à 19h30, nous recevons Bruno Bétoir, qui est professeur émérite des universités, à l'occasion de la publication des enseignements d'un colloque consacré à la laïcité. Laïcité, enracinement, enjeux et perspectives. C'est publié par les Cahiers du Littoral et nous allons parler plus particulièrement de l'histoire de la laïcité. C'est une notion assez complexe qui est comprise différemment selon les pays auxquels on s'adresse. Et bien, nous allons évoquer ce soir tous ces problèmes, toute cette histoire qui est celle de la laïcité, qui est un marqueur fort, bien entendu, de notre culture et de notre identité. Nous n'avons pas de standard ce soir, chers auditeurs, mais vous pouvez poser vos questions, vos remarques que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez le faire donc par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Vos messages seront bien sûr les bienvenus, surtout n'hésitez pas. Et nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission du Libre Journal des Amitiés Françaises. Deux mois après son retour à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, vient d'annoncer aux médias en ligne intitulés « Tout sur l'Algérie » vouloir réengager avec l'Algérie une relation basée sur la confiance. Il a ainsi pris part aux commémorations des massacres de Sétif de 1945 et déclaré dans cet entretien avec donc ce média vouloir à nouveau accorder 250 000 visas par an aux Algériens, dont nous savons tous bien sûr qu'à leur expiration, aucun ne fera l'objet d'une OQTF effective. Les Algériens forment ainsi la première communauté étrangère ou d'origine étrangère en France, conséquence directe des accords conclus à la suite de ceux d'Évian avec un pays qui est déjà marqué à cette époque par la dictature. Le gouvernement, à l'évidence, ne partage pas l'opinion et l'angoisse de la majorité des Français qui estiment qu'il y a en France un grave problème d'immigration de masse. Très étonnant encore, le cas du journaliste Christophe Glaize, prisonnier dans les geôles de ce régime brutal depuis plusieurs années, n'a pas été évoqué par l'ambassadeur de France dans cet entretien. Comment comprendre une telle attitude? Comment comprendre une telle politique? Comment la France peut-elle se laisser ainsi humilier, non seulement tendre la joue gauche, mais aussi sacrifier notre fierté dans une relation particulièrement perverse et toxique? Tous les psychiatres disent que la seule attitude à avoir avec une personne toxique, c'est la fuite. À l'évidence, nous ne sommes toujours pas sortis des conséquences de la conquête d'Alger décidée par Charles X en 1830. Un livre salutaire sur ces questions vient de paraître. Il décrit deux siècles d'histoire franco-algérienne tout en démontant les mythes et les mensonges de l'histoire officielle, tant algérienne que française. Qui mieux que Xavier Driancourt peut aborder l'histoire d'une relation si conflictuelle depuis l'indépendance en 1962, particulièrement par le procès fait en permanence par le pouvoir algérien à la France. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, par deux fois, restitue dans ce livre la réalité des faits et leur histoire en 27 questions chapitres. Il démarre ainsi aux sources, mais ces sources, en quelque sorte, sont mises au devant de l'actualité par le candidat à la présidence en 2017, c'est le candidat Macron, qui déclare en Algérie, la colonisation française en Algérie est un crime contre l'humanité. Ça, c'est la première question, c'est le premier chapitre que traite Xavier Driancourt. Est-ce que la colonisation française en Algérie est bien un crime contre l'humanité? Et il faut en revenir, bien sûr, à la définition de ce qu'est un crime contre l'humanité, ce que connaît parfaitement Xavier Driancourt du fait de sa carrière dans la diplomatie. Et ce livre se termine par l'actualité. Y a-t-il des leçons à tirer? C'est la question que pose Xavier Driancourt dans ce dernier chapitre, le 27e chapitre de ce livre. Y a-t-il des leçons à tirer des affaires Sansal et Gley? C'est un livre qui est passionnant, et comme il s'agit de mensonges et de vérités, il ne manie pas la langue de bois tout en proposant une profonde leçon d'histoire et de politique. Et vous l'avez compris, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Driancourt, donc à l'occasion de la publication de ce livre, et ça sera bien sûr une émission d'actualité suite aux dernières déclarations de notre ambassadeur à Alger. Cette histoire n'est vraiment pas terminée. Xavier Driancourt, monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en cette période estivale. Vous êtes revenu de vos terres ensoleillées, pour être dans ce studio ce soir en direct. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. Je vous présente rapidement à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais ils vous connaissent bien parce que vous venez souvent à notre micro. Vous avez été élève de l'École nationale d'administration, vous faites partie de la promotion Michel de l'hôpital. Vous avez effectué votre carrière dans la diplomatie, vous avez été par 3 fois ambassadeur, et vous avez été ambassadeur par 2 fois donc en Algérie, tout d'abord en 2008, et puis en 2017, et en 1998, vous avez été ambassadeur en Malaisie, à Kuala Lumpur. Vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages, 3 ouvrages particulièrement. Je vais les citer. 4, cet ouvrage, c'est le 4e que vous écrivez, donc sur l'Algérie. Et je vous demandais d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas écrit sur la Malaisie. Alors, mais bon, je reviens aux ouvrages que vous avez écrits. Tout d'abord, vous avez écrit un ouvrage collectif qui a été publié chez Salvatore en 2016, 4 nuances de France. Et vous avez écrit en 2022 L'énigme algérienne, chronique ambassade à Alger, nous avions eu le plaisir de vous recevoir, et vous avez aussi écrit récemment, en 2023, pour Fondapol, Politique migratoire, que faut-il faire de l'accord franco-algérien de 1968, on est plein dans cette actualité, et en effet, nous vous voyons sur beaucoup de plateaux en ce moment, suite aux déclarations de votre successeur à Alger, sur cette volonté de rétablir 250 000 visas en Algérie. Alors avant de rentrer dans, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, dans le vif du sujet, votre livre, en effet, et l'actualité, et j'aimerais vous demander ce qui vous attache tant à l'Algérie. Certes, vous avez été 2 fois ambassadeur, mais comme je le précisais, vous avez été ambassadeur en Malaisie, et à Kuala Lumpur. Mais vous vous semblez très très attaché, effectivement, à l'Algérie. Oui, ma question, monsieur l'ambassadeur, c'était pourquoi êtes-vous si attaché à l'Algérie?
Parce que vous l'avez dit, j'ai été 2 fois ambassadeur là-bas. Et puis donc forcément, presque 8 ans passés en Algérie, ça crée des liens avec ce pays. Et puis surtout parce que l'Algérie, c'est en permanence en France un sujet d'actualité. On le voit encore, vous l'avez dit, avec les déclarations de mon successeur à Alger. Mais c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Et donc, on revient toujours à la question algérienne par le biais de l'immigration, par la question des visas, par la question de l'islam, par la question de l'accord de 68. Donc voilà, c'est un sujet, j'allais dire, inépuisable. Et puis sur ce livre-là, ce sont les éditions Perrin donc, qui m'ont demandé de faire un ouvrage un peu historique. Et j'ai choisi 27 thèmes, tableaux sur l'Algérie, pas forcément ceux qu'on attendrait, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, été explorés par des historiens. Il y en a un certain nombre sur l'Algérie, notamment la décolonisation, notamment la guerre d'Algérie. Donc j'ai voulu faire partir à la fois de 1830 et arriver à 2026, l'affaire Boualem Sansal, Christophe Glaize.
Alors je dois vous terminer par Boualem Sansal et Christophe Glaize. Boualem Sansal, vous avez été très impliqué, naturellement,
oui,
dans sa défense, dans la médiatisation de son emprisonnement. Et vous êtes vraiment battu pour lui, vous le connaissez très bien. Et j'aimerais vous demander où en est Boualem Sansal, parce que suite aux dernières attaques contre lui, lorsqu'il a changé d'éditeur, il y a eu des attaques très violentes,
oui.
Et il a exprimé le souhait à un moment de quitter la France,
oui.
Récurrement, sans doute. Et où en est-il ?
Non, je vous rassure, ou je rassure vos auditeurs, je crois que Boualem, je le connais bien, il a parlé un peu trop rapidement ou crûment, si je puis dire. J'étais avec lui à Bruxelles le jour où il a eu cette phrase, cette formule, mais je crois qu'il l'a prononcée sous le coup de l'exaspération, des critiques, des attaques contre lui. Et il est revenu en décembre dernier, auréolé d'un certain prestige d'avoir été prisonnier pendant un an du régime algérien. Et puis 3 mois après, il se trouvait attaqué par tous les médias parisiens sur le fait qu'il avait changé d'éditeur. Donc il a parlé, je pense, sous le coup d'une certaine exaspération.
Mais qui orchestre ces campagnes ?
Qui ?
Qui orchestre toutes ces campagnes contre lui ? Contre Boualem Sansal, qui orchestre ces campagnes ? Qui est derrière ? Parce que
je crois que là, les médias parisiens, le petit monde germano-pratin, je ne crois pas que ça soit l'Algérie qui était directement derrière. L'Algérie s'est certainement réjouie des attaques contre Boualem Sansal, mais c'est le microcosme parisien, germano-pratin, les médias de gauche notamment, qui l'ont attaqué sur le fait qu'il avait quitté Gallimard.
Revenons à votre livre, Xavier Dorincourt, si vous voulez bien. Donc, l'Algérie de 830-2026, Vérités et légendes. Comment expliquez-vous la complexité de la relation franco-algérienne ? La France a été en guerre, la France a eu de nombreuses colonies, il y a eu des guerres d'indépendance qui ont été parfois très dures. On pense à la guerre au Vietnam, en Indochine, qui a duré longtemps, avec des pertes considérables. Mais tout ça est refermé, les relations sont normales, tout avec beaucoup de pays aussi d'Afrique noire, qui étaient ces pays étaient eux aussi des colonies. Pourquoi avec l'Algérie, cette affaire semble sans fin ?
Parce que vous avez parlé du Vietnam. Le Vietnam, dans cette zone asiatique que je connais pour avoir été ambassadeur en Malaisie, cette zone de l'Asie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, sont tournées vers l'avant, vers l'avenir. Alors que l'Algérie passe son temps, depuis 1962, à regarder dans le rétroviseur. Et donc, ce qui n'est pas le cas du Vietnam. Le Vietnam a tourné la page de la colonisation, a tourné la page de la guerre, mais l'Algérie ne l'a pas tournée et surtout ne veut pas la tourner, parce que c'est une source de la légitimité du pouvoir politique algérien. Donc, ce qui fait la légitimité de ce pouvoir, c'est le discours anti-français. Et donc, il faut entretenir, arroser, faire durer ce discours anti-français. Donc, c'est un dossier qui est complètement artificiel et entretenu par le pouvoir algérien.
Alors vous expliquez aussi dans l'introduction de votre livre que cette relation toxique qui paraît sans fin est aussi la conséquence de la multiplicité des acteurs dans cette affaire aux intérêts constamment divergents. Vous évoquez, alors bien sûr que côté français, il y a Paris, il y a l'armée, il y a les colons, il y a eu la guerre, il y a eu les massacres, il y a eu l'abandon des harkis. Il y a eu l'impassibilité de l'armée et de la police française pendant cette période de transition. Il y a en Algérie aussi la multiplicité des acteurs. Vous l'expliquez parfaitement. Entre l'armée des frontières, l'armée nationale, les wilayas, etc. Vous expliquez que cette situation est la conséquence de la multiplicité d'acteurs aux intérêts, finalement.
Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par l'Algérie, qui ont une histoire ou un passé algérien. Alors effectivement, on dit qu'il y a 10% de la population française qui a un lien, à un titre ou à un autre, avec l'Algérie, les pieds noirs, les harkis. Il y a eu ensuite les pieds rouges, qui ont été dans les années 60, après l'indépendance, envoyés en Algérie. Il y a eu l'armée, et l'armée, même si aujourd'hui, ce sont des gens vieillissants ou qui pour certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux ont disparu, l'armée française en Algérie, ça a été 1,5 million de militaires qui ont été envoyés en Algérie entre 1954 et 1962. Donc c'est énorme. Et ensuite, il y a toutes les différentes strates de l'immigration algérienne, binationale, irrégulière. Donc voilà, il y a un format de personnes concernées par l'Algérie qui est particulièrement important.
Et aussi une question que je souhaitais vous poser sur votre expérience en Algérie. Vous avez été ambassadeur de France par deux fois. Une première fois donc en 2008 sous le président Sarkozy face au président algérien Bouteflika.
Oui.
Et puis après 2017, c'était Tebboune.
Oui.
Qui a été mis en place, écrivez-vous, par l'armée. C'est le même régime ou c'est différent?
Non, c'est différent. C'est le même régime dans la mesure où l'armée en Algérie, il faut bien s'en rendre compte, a un pouvoir ou deux pouvoirs, celui de nommer le président algérien, celui de choisir le président algérien et celui, le pouvoir de mettre fin à son mandat. Et depuis 1962, aucun président de la République algérienne n'a terminé son mandat. Le premier, Ben Bella, a été écarté au bout de 3 ans. Ensuite, Boumedienne est mort à Moscou. Chadli a été écarté par l'armée. Boudiaf a été assassiné. Et ensuite, Zeroual a démissionné. Et Bouteflika a également été écarté par l'armée en 2019. L'armée a choisi à ce moment-là Tebboune et je ne sais pas combien de temps le contrat entre Tebboune et l'armée durera. Mais effectivement, ce n'est pas le même régime aujourd'hui parce que Bouteflika avait été ministre des Affaires étrangères pendant 15 ans, avait voyagé, connaissait le monde et connaissait tous les dirigeants du monde entier. Donc, c'était quelqu'un qui était ouvert sur le monde. Tebboune, ce n'est pas le cas. Tebboune, il a été sous-préfet, préfet, wali. Il n'est jamais sorti d'Algérie. Donc, ce n'est pas du tout la même relation.
Mais ce qui est commun à ces deux présidents, c'est qu'ils ont été mis en place par l'armée.
Oui.
C'est l'armée qui met en place les présidents en Algérie.
C'est l'armée qui choisit
la constante.
Le président. Et oui. Bouteflika avait été choisi une première fois en 1995 par l'armée. Et à ce moment-là, il avait refusé parce que l'armée n'acceptait pas ses conditions. Et il est reparti à Abu Dhabi où il était. Et en 1999, l'armée est allée le chercher une seconde fois et a accepté les conditions que Bouteflika avait posées. Et à ce moment-là, il a été intronisé, élu président de la République.
Donc depuis le putsch de Ben Bella, On peut dire que c'est l'armée des frontières, en quelque sorte,
oui,
qui fait l'appui des
beaux. Non, si vous voulez, c'est un régime quand même très particulier, parce que contrairement à l'Égypte, par exemple, ou à la Libye de l'époque de Kadhafi, ou à la Syrie de l'époque de Bachar el-Assad, ce n'est pas l'armée qui est en première ligne. En Égypte, c'est le maréchal Sisi qui était chef d'état-major de l'armée et qui est président de la République. Avant, c'était Moubarak. C'est l'armée qui est en première ligne. En Algérie, l'armée, elle est derrière la vitre sans teint qui est derrière nous. Elle est derrière, elle contrôle, elle choisit le président, elle le surveille, elle veille à ce que le contrat entre l'armée et le président soit respecté, elle le laisse gouverner. Mais quand elle estime que les intérêts de l'armée sont en cause, à ce moment-là, elle a la capacité de siffler la fin de la récréation et de mettre fin au mandat du président. Ce n'est pas inscrit dans les textes, évidemment, mais c'est le système tel qu'il fonctionne et tel qu'il a fonctionné depuis 1962.
Et quels sont les intérêts de l'armée en Algérie?
L'armée, elle estime avoir la légitimité que n'a pas le pouvoir civil, parce que elle estime avoir délivré le pays à deux reprises. En 1962, elle a délivré le pays du colonisateur français, et elle a délivré le pays en 1995-2000 face aux islamistes. Donc elle s'estime le propriétaire du pays et elle estime que le peuple algérien n'est que le locataire, en quelque sorte. Et donc, ben voilà, elle a les pouvoirs du propriétaire vis-à-vis du locataire. Si le locataire n'est pas content, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir en France, notamment. Donc c'est un pouvoir très... Vous voyez, c'est très subtil, c'est pas l'Égypte de Sisi. C'est un pouvoir militaire qui est derrière le rideau, derrière la vitre, et qui surveille le président qu'elle a mis en place.
Mais vous avez tout un chapitre qui est consacré à la prise du pouvoir, justement, par le clan Ben Bella, donc issu de l'armée des frontières, en 1962, oui. Enfin, un peu après 62.
En juillet 62,
oui. Avec une véritable guerre civile qui se passe dans Alger.
Il y a eu deux lois de guerre civile.
C'est ça, entre l'armée de l'intérieur et l'armée des frontières.
Entre l'armée et ceux qui avaient négocié les accords d'Évian, surtout le GPRA, qui était le gouvernement provisoire. Oui. Et l'armée de Boumediene et de Ben Bella, Boumediene surtout, a estimé que le GPRA n'avait pas la légitimité pour gouverner le pays.
Mais cette armée-là n'était que l'armée des... Enfin, que...
C'était
l'armée des frontières.
Des frontières, c'est-à-dire l'armée à l'extérieur.
Pas celle qui s'est battue dans les Moulayas.
L'armée qui ne s'était pas battue contre la France. Alors que Krim Belkacem, le négociateur des accords d'Évian, le président du GPRA, lui, il avait été un des créateurs du FLN. Donc c'était l'armée de l'intérieur, puisque c'est lui qui, en 1954, a créé le FLN avec d'autres et a commencé les premiers attentats du 1er novembre 1954. Alors que l'armée des frontières, effectivement, ils étaient spectateurs à l'étranger, au Maroc et en Tunisie et en Égypte, et ils ont pris le pouvoir en 1962, ils ont délogé ceux qui s'étaient battus.
C'est extraordinaire.
C'est paradoxal.
C'est un épisode qu'on ne connaît absolument pas en France. Et vous nous éclairez parfaitement dans ce chapitre. On connaît mal cette histoire.
Oui, on connaît très mal cette...
Et ça enlève quand même de la légitimité historique à cette armée.
Mais le récit, le narratif, le récit officiel algérien, c'est que l'armée a vaincu la France, a vaincu le colonisateur, et donc elle s'estime le garant des intérêts du pays.
Oui, c'est un chapitre passionnant de ce livre, Xavier Driancourt, l'Algérie 1830-2026, Vérités et légendes. L'armée joue ce rôle, la défense de ses propres intérêts, parce qu'elle a la force, tout simplement. C'est elle qui a la... Mais oui. En cas de coup de force, par exemple, hein, on pense ce qui s'est passé avec le Irak. Vous abordez, bien sûr, le Irak, cette révolte qui a été très, très forte, hein, puisque une très, très forte partie de la population 2019, algérienne 2020, en 2019 a manifesté
une
dans
l'année complète.
C'était incroyable. Hein, c'était la majorité des Algériens étaient mobilisés pour le Irak, l'armée. Alors le Covid a mis en quelque sorte fin à tout ça, et puis il y a eu une répression qui s'est mise.
Le chef d'état-major de l'armée, qui au départ a joué le jeu pour écarter Bouteflika, et il a contraint Bouteflika à la démission au début de cette crise, le Irak, mais ensuite il a voulu, il a pris le pouvoir... en éliminant, en affaiblissant le Irak, fait élire Tebboune, et donc c'est comme ça que ça s'est terminé.
Alors ma question, justement, monsieur l'ambassadeur, c'est, on se rend compte à la lecture de votre livre et de vos présentes explications, le système, comme ce mot est utilisé pour décrire le pouvoir algérien, le système, c'est l'armée, mais c'est l'armée parce qu'elle, bien sûr, elle a la force avec elle. Mais dans le cas de révolte dans le pays, a-t-elle les moyens de mobiliser une force suffisante pour continuer à imposer cette dictature? Elle a réellement... Les soldats suivraient, par exemple?
Parce qu'on l'a vu en... pendant la guerre civile, la décennie noire algérienne contre les islamistes. L'armée a véritablement maté les islamistes et a fini par gagner la guerre civile, certes au bout de 10 ans, et puisqu'il y a eu 10 ans de guerre civile entre 1990 et 2000, en gros, donc jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. Et l'armée, 15 ans plus tard, en 2019, a réussi à mater le Irak et à mater les manifestants qui voulaient revenir à un espèce de système plus démocratique, plus légitime, et qui était, dans le fond, l'Algérie qu'ils espéraient en 1954.
Et c'est une armée de conscription ou c'est une armée de volontaires, d'engagés ?
C'est une armée de conscription, mais il y a quand même un tellement grand nombre d'officiers, sous-officiers de carrière, que c'est quand même une armée extrêmement, extrêmement solide, extrêmement encadrée, et qui est encore une fois la colonne vertébrale du régime, parce que c'est elle qui a réussi à délivrer le pays de ses oppresseurs qu'étaient la France, puis les islamistes pendant la guerre, et ensuite le Irak. Donc à chaque fois, l'armée intervient pour dégager ceux qui ne sont pas d'accord avec les fondamentaux du système. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale du régime, l'armée.
Et cette colonne vertébrale, est bâti à travers une sélection idéologique, politique de son encadrement. Vous avez pu le constater, vous, quand vous étiez ambassadeur, avez-vous visité les écoles d'officiers,
non,
de sous-officiers?
Parce que le ministre de la Défense algérien, c'était le seul ministre qui ne recevait pas l'ambassadeur de France.
Comment vous l'expliquez?
Vous voyez, il y a une idéologie.
Ah oui, c'est incroyable.
J'ai été reçu par tous les ministres algériens, mais jamais par le ministre de la Défense. Et je pense qu'aucun de mes successeurs ou prédécesseurs n'a été reçu par le ministre de la Défense. Parce que derrière ça, il y a le thème de l'ennemi, la France, le colonisateur et le représentant de la France qui est l'ambassadeur de France. Donc, alors j'ai visité des institutions militaires, mais enfin... on me montrait ce qu'on voulait bien me montrer. Mais encore une fois, je n'ai jamais été reçu par le ministre de la Défense algérien, par ses collaborateurs, certes. Il déléguait toujours quelqu'un autour d'une tasse de thé et de petits gâteaux. C'était toujours très courtois. Mais le ministre en tant que tel, je ne l'ai jamais approché directement. Sauf quand le président Macron est venu à Alger, où là, il se trouve qu'au repas, je me suis trouvé à côté de Gaïd Salah, le ministre de la Défense, et c'est quasiment la seule fois que j'ai approché de près physiquement le ministre de la Défense algérien.
Je vous propose de revenir à la manière dont vous avez écrit votre livre, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle l'Algérie 1830-2026, vérités et légendes que vous écrivez, que vous publiez, pardon, aux éditions Perrin. Mais déjà, dans notre discussion, nous comprenons l'importance de l'armée. C'est elle qui tient ce fameux système, qui est le terme un peu utilisé pour décrire. En effet, l'organisation politique qui détient réellement le pouvoir en Algérie, c'est en effet l'armée. Vous nous avez expliqué pourquoi et comment elle était organisée, justement, pour mettre en place le président de son choix. Je voudrais revenir donc à votre livre de manière plus générale. Comment avez-vous choisi 27 chapitres, 27 qui répondent à 27 questions?
Oui.
Comment avez-vous fait pour les sélectionner, ces questions?
Il y en aurait sans doute beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir, mais j'ai pensé que ces thèmes-là étaient particulièrement intéressants et importants, avec, par exemple, que sont devenus les chrétiens d'Algérie, que sont devenus les juifs d'Algérie, la période de Napoléon III, De Gaulle aussi en Algérie, et je fais un espèce de flashback, si je puis dire, sur De Gaulle en 43-44 à Alger, et cette période l'a marqué, à mon avis, pour les choix politiques qu'il a fait en 1958-62. Donc voilà, j'ai essayé de choisir des sujets qui n'avaient pas toujours été explorés. La décolonisation, la guerre, ça, bon, il y a eu beaucoup de livres là-dessus, l'excellent livre de Yves Courrières sur la guerre d'Algérie, il y a eu les livres de Benjamin Stora, d'autres historiens, mais sur ces thèmes-là, il n'y en avait pas eu trop. Il y a eu tout récemment, qui est sorti en même temps que celui-ci, quasiment l'excellent livre de Pierre Vermeeren sur l'histoire de l'Algérie. Donc j'ai choisi ces thèmes, à la fois parce qu'ils n'avaient pas toujours été explorés, et puis aussi pour certains d'entre eux, faisant appel à mon expérience personnelle.
Mais tous ces thèmes, en fait, concernent des sujets relativement polémiques, l'actualité.
Oui. Parce que l'Algérie, c'est de l'actualité.
Et comment avez-vous fait pour écrire ces chapitres? Parce que c'est un sujet qui est délicat, justement, quand on parle de polémique. Comment avez-vous procédé?
Une fois que j'ai choisi les thèmes, je suis entré dans le vif du sujet en essayant de répondre aux questions, puisque le principe de cette collection Vérités et Légendes, c'est, vous l'avez noté, des chapitres qui sont sous forme de questions. Le premier chapitre que j'ai choisi, exprès, volontairement provocateur, si je puis dire, c'est « La colonisation française en Algérie a-t-elle été un crime contre l'humanité ?» Donc, je pose une question et j'essaye, dans le chapitre, dans la rédaction du chapitre, de répondre, d'utiliser les différents arguments pour ou contre, et de conclure à la fin « Non, la colonisation française n'a pas été un crime contre l'humanité, j'explique pourquoi. »
Alors je vous propose que nous abordions justement ce chapitre, qui est un chapitre d'introduction effectivement aux 26 autres chapitres, particulièrement intéressant. Vous partez en effet de la déclaration d'Emmanuel Macron. Il n'est pas encore président, il est candidat, je crois.
Il n'est que candidat.
Février, 11 février 2017, où il déclare que la colonisation de l'Algérie, en effet, est un crime contre l'humanité. Vous étiez déjà à Alger à ce moment-là?
Non.
Pas encore, hein?
Non, pas encore.
Vous n'étiez pas encore...
Mais je l'avais rencontré quelques jours avant, parce qu'il avait souhaité m'entendre. Je l'avais rencontré quelques jours avant et je me souviens très bien l'avoir pas mis en garde, mais lui avoir dit, faites attention à tout ce que vous direz à Alger, parce que tout ce que vous direz sera immédiatement entendu et analysé en France.
Et visiblement, il n'a pas écouté votre...
Il n'a pas écouté,
il n'a pas écouté votre conseil.
Mais je pense que c'était volontairement qu'il ne, n'a pas écouté, qu'il ne m'a pas écouté.
Que cherchait-il à faire, justement? Que cherchait-il à faire en disant que la colonisation de l'Algérie était un crime contre l'humanité?
C'était manifestement une provocation, en quelque sorte, provocation politique, parce que à la fois, il prononçait cette phrase en contradiction avec toute la politique française qui avait été menée jusqu'à présent vis-à-vis de l'Algérie, mais en même temps, il s'inscrivait dans les premières ouvertures qui avaient été faites sur ce sujet, aussi bien par Jacques Chirac que par Nicolas Sarkozy, qui, je le raconte, est venu en 2007 en Algérie, à Constantine, et il avait prononcé un discours extrêmement dur sur la colonisation française. Et il s'inscrivait aussi dans la lignée de François Hollande, dont il avait été le collaborateur. Mais cette phrase en elle-même était manifestement de la provocation, et elle a été perçue comme telle par les harkis, par les pieds noirs et par beaucoup de Français.
Oui, parce qu'en effet, il s'inscrit quand même dans une forme de continuité en allant beaucoup plus loin, certes, mais dans ce chapitre, au début du chapitre, vous précisez par exemple que l'amendement Van Est
oui.
a été abrogé par Chirac-Villepin en 2006.
Voilà, exactement.
On est un peu dans la... Voilà, et puis lui va plus loin. Il est candidat, il va plus loin.
Il était dans une certaine continuité qui avait commencé... dans la période de Chirac, avec l'amendement Van Est.
Alors cet amendement Van Est disait, dans la colonisation, il n'y a pas que du mauvais,
oui,
en quelque sorte.
Il disait, en gros, il fallait enseigner l'histoire de la colonisation française au Maghreb.
Oui. Alors ce qui est quand même... Alors ça, c'est un peu difficile.
C'est
un souhait, certes, mais...
Oui.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le lendemain de cette déclaration, tout de même... Le président Macron demande pardon ses propos
oui,
à Alger.
Oui, oui, donc
on est vraiment dans le même temps. Hein.
C'est le en même temps, exactement.
Déjà comme candidat, c'est quand même incroyable. Ça, c'était parce qu'il y a eu des réactions violentes contre sa déclaration.
Oui, il y a eu des déclarations extrêmement violentes en France après cette déclaration. Parce qu'encore une fois, il faut bien réaliser que l'Algérie, c'est un système stéréophonique. Tout ce qu'on dit à Alger est
entendu en France.
Immédiatement. Oui. En France,
oui.
Écouté par des publics complètement différents, qui sont tous ces acteurs que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire écouté et interprété, pas de la même façon, par les pieds noirs, les harkis et les Algériens de France. Donc chacun y va de son indignation, les uns parce que le président ou le candidat Macron à l'époque était allé trop loin en condamnant la colonisation française, et les autres applaudissait au contraire en disant « ça va être une nouvelle politique française vis-à-vis de l'Algérie ».
Alors vous écrivez à cet égard, suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, donc sur la colonisation d'Algérie, crime contre l'humanité, en Algérie, la boîte de Pandore était ouverte, le débat sur la colonisation dévia rapidement vers un débat sur la repentance. Mais là, il s'agit... du discours d'un homme politique en campagne, faut-il réellement lui accorder de l'importance? Quelles ont été les conséquences de cette déclaration?
Les conséquences, c'est quand même qu'il a été élu président de la République.
Mais pas grâce à ça.
Et donc les Algériens ont estimé qu'il allait mettre en œuvre sa politique anti-colonisatrice, anti-coloniale. Et... d'une certaine façon, il l'a fait, parce qu'après, une fois avoir été élu président, il y a eu tous les gestes mémoriels, comme on dit, inspirés largement ou conseillés largement par Benjamin Stora, la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumendjel, la restitution des crânes, l'Arbi Ben Midi, donc tous les héros de la guerre d'indépendance, réhabilité par le président, cette fois-ci le président Macron, non plus le candidat. Donc voilà, l'Algérie attendait tous ces gestes, Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que du côté algérien, il n'y a eu aucun retour, aucun remerciement, aucune reconnaissance et aucune félicitation, en quelque sorte, pour les propos extrêmement forts du président, désormais, Macron. Et d'où la crise de 2024, parce que je pense, c'est, en tout cas c'est mon interprétation, je n'étais plus en Algérie à l'époque, mais je pense que le président de la République en 2024 s'est trouvé convaincu que décidément il n'y avait rien à faire avec l'Algérie, que ce régime, surtout avec Tebboune, ne répondrait jamais à ses offres ou à ses déclarations. Donc il fallait tourner la page. Et comme on était brouillé, comme il était brouillé avec le Maroc, comme on le rappelle abondamment ces jours-ci dans la presse avec l'affaire Pegasus, etc., et des propos parfois aussi un peu limites qu'il avait eus à l'égard de la monarchie marocaine ou du roi du Maroc, comme il était brouillé avec le Maroc, là, il s'est dit qu'il ne pouvait plus faire du en même temps. Et donc, il a dû se dire qu'il fallait tourner la page avec l'Algérie, puisqu'on n'aboutissait à rien. Pendant 6 ans, il avait fait, lui, Emmanuel Macron, des gestes, des déclarations au profit de l'Algérie, en faveur de l'Algérie, et l'Algérie lui claquait la porte au nez, en quelque sorte. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, c'est pas la peine de continuer, allons voir du côté du Maroc comment les choses se passent. Et le Maroc, très intelligemment et très habilement, a dit, très bien, vous voulez vous réconcilier avec nous, mais ce sera à nos conditions, et la condition, ça a été le Sahara occidental.
La reconnaissance du Sahara occidental. Mais, monsieur l'ambassadeur, vous nous expliquez là l'attitude d'Emmanuel Macron en 2024, déçu par quasiment cette année hein, de main tendue, oui. De gestes mémoriels, oui. De mea culpa, etc., sans absolument aucun effet. Mais là, quand on se réfère à ce que vient de dire le nouvel ambassadeur de France en Algérie, nous allons remettre 250 000 visas par an, sans aucune référence à Christophe Glaize en prison depuis plusieurs années. Mais on est de nouveau la main tendue. Alors donc Emmanuel Macron revient à sa politique initiale.
Voilà, vous avez raison. Je pense que le président de la République s'est quand même mis en tête que il serait l'homme de la réconciliation avec l'Algérie, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et donc, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire on passe par toutes les demandes algériennes. L'Algérie demande des visas, on donnera plus de visas. L'Algérie ne veut pas reprendre les OQTF, ben on s'incline devant le fait que l'Algérie ne reprend pas les OQTF et on refuse toute politique de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Donc je pense que le président de la République a en tête qu'il sera celui qui va réconcilier la France avec l'Algérie et il n'a pas abandonné l'objectif qu'il avait en 2017.
Mais il lui reste un an, vous croyez cela réaliste ? Donc, pendant sept ans, le pouvoir algérien a fait camouflet sur camouflet, en quelque sorte, en un an, mais on recommence
Le choix, comme ministre des Affaires étrangères de M. Barrot, le choix comme ministre de l'Intérieur de M. Nunez, montre que ces deux personnalités, ce sont des exécutants de la politique de M. Macron et que le président de la République, encore une fois, quoi qu'il en coûte, est décidé à faire en sorte que l'Algérie sera le marqueur de son double quinquennat.
Il a surmonté sa déception de 2024.
Oui, je pense qu'il est persuadé qu'il réussira là où ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'avaient réussi.
Et monsieur l'ambassadeur, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il y a...
Je pense qu'il ne connaît pas les Algériens et il sous-estime les Algériens. Et le fait que mon successeur a prononcé cette phrase que vous avez rappelée sur la délivrance de 250 000 visas, je pense que je fais deux remarques, il y a deux éléments. D'une part, ça correspond à la politique gouvernementale, à la politique du président de la République et du Quai d'Orsay, de délivrer davantage de visas parce que, voilà, il y a une espèce de repentance en arrière-plan de notre politique et parce que on veut attirer les étudiants algériens, on veut fermer les yeux sur l'accord de 68, etc. Mais en même temps, je pense que mon successeur s'est fait piéger par la presse algérienne. Moi, une des premières choses qu'on m'avait dites quand je suis parti en Algérie la première fois, en 2008, on m'avait dit « Faites attention à la presse algérienne, ils vous piègent en permanence ». Et je pense que là, il a cru faire plaisir à l'opinion publique algérienne en disant « On va délivrer 250 000 visas ». Mais il a oublié l'axiome que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est dit à Alger est entendu à Paris.
Mais David, c'est intéressant, quand vous dites que vous-même, vous aviez été prévenu, vous étiez très prudent lorsque vous étiez interviewé par les médias algériens, comment faisiez-vous justement, très concrètement, pour ne pas être piégé, parce que visiblement d'autres sont piégés, vous ne l'avez pas été, comment faisiez-vous?
C'est peut-être un peu l'expérience, le flair. Je n'avais pas de recette particulière, mais j'essayais de faire attention à tout ce que je disais publiquement, ce qui ne m'empêchait pas d'écrire ou de dire les choses en petit comité ou d'écrire les choses à Paris, mais publiquement en Algérie, encore une fois. J'avais bien en tête que la presse algérienne est toujours un peu orientée dans ces questions. Et deuxièmement, que tout ce que je dirais à Alger serait analysé à Paris.
Et la question que j'aimerais vous poser, parce que vous écrivez dans ce chapitre, vous allez bien sûr répondre à cette question. C'est une question importante. La colonisation française en Algérie est-elle un crime contre l'humanité? Donc on va bien sûr revenir sur ce point. Mais vous écrivez dans ce chapitre, Emmanuel Macron a volontairement ou non mélangé plusieurs débats menés de manière séparée par juristes et historiens. La question que j'aimerais vous poser, on a évoqué, vous dites que finalement Emmanuel Macron va plus loin, mais il s'inscrit quand même dans une forme de reconnaissance politique des crimes de la France en Algérie. Ça a commencé donc par Jacques Chirac qui abroge l'amendement Van Est avec Villepin, puis après il y a Hollande, etc. Quelle est leur conviction réelle? Quelle est la conviction d'Emmanuel Macron par rapport à la colonisation de l'Algérie? Pense-t-il réellement que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie?
Il faut lui poser la question. Je suis incapable de dire quelle est sa conviction. Mais je pense, comme je l'écris dans le chapitre, qu'il a fait une erreur en prononçant cette phrase, parce que la notion de crime contre l'humanité, c'est une notion qui a été mise en avant au procès de Nuremberg. Les crimes contre l'humanité, le génocide, c'est-à-dire la volonté d'exterminer un peuple, une population.
C'est la définition du crime
qui a été donnée à Nuremberg au procès de Nuremberg à propos de la Shoah. La volonté d'extermination d'un peuple. Il est évident que la colonisation française, elle a peut-être été horrible par certains côtés, mais elle n'a jamais été en 1830, en 1860 et en 1870 sous la Troisième République, elle n'a jamais été la volonté d'exterminer le peuple algérien.
Alors, vous nous remettez dans l'histoire, parce que pour éviter l'anachronisme, puisque c'est une définition, crime contre l'humanité, qui date du procès de Nuremberg. C'est ce que vous nous expliquez. Je pose déjà la question de la prescription, en quelque sorte. Peut-on qualifier un crime avant?
Et c'est pour ça que je dis que sont mélangés à la fois des aspects juridiques, des aspects politiques et des aspects historiques. Et donc tout ça, c'est le choix politique qui l'a emporté quand il a prononcé cette phrase.
Oui, mais vous dites que c'est quand même un choix politique, mais anachronique, parce que vous apportez des éléments particulièrement intéressants. Vous expliquez que la colonisation sous la Troisième République, parce que c'est elle qui a réellement lancé ce processus, mais nous allons quand même évoquer ce sujet, c'était un peu en germe parmi quelques individus en 1830, au début de la conquête, mais c'est surtout la Troisième République qui s'est lancée dans cette vaste entreprise coloniale. Et vous précisez que ça ne faisait pas débat à l'époque, et encore moins à gauche, parce que ce sont quand même des hommes politiques de gauche.
Ce sont des hommes politiques de gauche, qui ont été socialistes. Les héros de la colonisation, voilà.
qui sont...
que ce soit en Indochine ou en Afrique noire ou en Algérie.
Et c'était présenté donc comme une mission civilisatrice. Et le droit international de l'époque présumait de l'inégalité des nations. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en matière de droit international, la France ne faisait pas mal, en quelque sorte.
Mais c'est pour ça, la colonisation, ça n'a pas été un crime contre l'humanité, parce que l'Allemagne faisait la même chose dans ses colonies en Afrique, la Grande-Bretagne faisait la même chose en Afrique et en Inde, l'Italie faisait la même chose en Libye, puis en Érythrée plus tard, le Portugal également. Donc les pays européens avaient tous la même politique de colonisation. Donc encore une fois, cette colonisation, on peut la regretter, on peut la déplorer, on peut la critiquer, mais ça n'a pas été un crime contre l'humanité, ni de la part des Anglais, ni de la part des Français.
On est en plein anachronisme juridique, moral et juridique.
Ou plutôt, comme je le dis, il y a un mélange des notions juridiques, politiques et historiques.
Oui. C'était donc la part de personnes cultivées.
Oui, mais
quand
on
même.
Était en campagne électorale. On était en électorale, donc il fallait trouver le truc qui relançait la campagne.
Parce que pour se faire l'histoire, vous précisez quand même que le pacte fondateur de la Société des Nations, dans son article 22, consacre la mission sacrée de la colonisation.
Oui.
Alors ça change, bien entendu, en 1945.
Oui.
Et là, on rentre dans une autre idée, enfin dans d'autres idées politiques, et on voit l'évolution, en effet, des pensées. La Charte des Nations Unies reconnaît alors le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Oui, il y a eu une évolution, parce qu'entre-temps, on est passé du traité de Versailles qui reconnaît la tutelle sur les anciennes colonies, notamment allemandes, parce que, est-il écrit dans le traité de Versailles, ces colonies n'ont pas encore atteint le stade suffisant pour s'auto-gouverner. Et la Charte des Nations Unies, entre-temps, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la Shoah
et
la création de l'État d'Israël.
Oui, effectivement, ça fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre de votre livre, Xavier Driancourt, je rappelle le titre aux auditeurs de courtoisie, l'Algérie, 2026, Vérités et mensonges, que vous publiez aux éditions Perrin. Et cette question, en effet, fait l'objet d'un chapitre, puisque vous posez cette question, la France a-t-elle perdu la guerre d'Algérie à l'ONU?
Oui.
Puisque, effectivement, en 1960, l'ONU condamne, année après année, la France pour sa guerre coloniale en Algérie, autre temps, autre mœurs, n'est-ce pas?
Est-ce qui
voilà, est-ce qui vous fait conclure ce chapitre? Nous allons faire une petite pause, un message de la radio juste après cette conclusion de votre chapitre, suivi d'une petite pause musicale. Je crois que Michael nous a préparé une pause de Jean-Sébastien Bach. C'est la conscience contemporaine qui aujourd'hui, à défaut des tribunaux, considère l'entreprise coloniale comme un crime contre l'humanité. En ce sens, la colonisation de l'Algérie n'a pas constitué un crime contre l'humanité. Voilà, votre réponse est claire.
Oui.
Très bien. Eh bien, je vous propose, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose à ce chapitre.
Je crois qu'on a beaucoup parlé de cet aspect des choses et de ce premier chapitre, et je n'ai rien à ajouter.
Mais c'est une question importante, parce qu'on est sans cesse culpabilisé pour cette histoire.
C'est pour ça que je commence le livre par cette question, parce que dans le fond, elle éclaire tout le reste.
Eh bien, nous faisons une petite pause pour écouter le message de la radio, suivi de quelques notes de Jean-Sébastien Bach.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, par deux fois, qui publie aux éditions Perrin « L'Algérie, 1830-2026, vérités et légendes », après l'introduction de son ouvrage et les raisons de sa publication. Eh bien, nous avons étudié le premier chapitre. Premier chapitre question, puisque cet ouvrage est organisé en chapitre question, eh bien nous avons, monsieur l'ambassadeur Driancourt a répondu à cette première question, qui est une question importante, parce que d'actualité, la colonisation de l'Algérie a-t-elle constitué un crime contre l'humanité? Et sa réponse est très claire, non. C'est uniquement la conscience contemporaine, effectivement, qui, à défaut des tribunaux, considère l'entreprise coloniale comme un crime contre l'humanité. Ça n'était pas du tout à l'époque, notamment à travers les articles constitutifs de la SDN, la colonisation n'était pas du tout considérée comme un crime. Donc là, c'est une question très claire, et Xavier Driancourt conclut en disant que Emmanuel Macron aurait dû séparer le droit, la morale et l'histoire, qui sont effectivement trois sujets bien différents, mais il était en campagne électorale. On peut supposer qu'il a volontairement confondu ces trois thèmes, droit, morale et histoire. Monsieur l'ambassadeur, nous avons un message d'auditeur qui vous pose un certain nombre de questions. Voici. Que pense monsieur l'ambassadeur de l'origine de la guerre civile ? Que pense-t-il de l'annulation des élections législatives entre les deux tours en 1992 ? Le Front islamique du salut n'avait-il pas choisi une accession au pouvoir par la voie des élections ?
Mais la guerre civile de 91 jusqu'à 2000, en gros, a été un tournant dans l'histoire de l'Algérie moderne. Et vous savez qu'à l'époque, François Mitterrand, président de la République, avait refusé avait condamné l'interruption du processus électoral. Et donc ça a créé une longue crise entre la France et l'Algérie à ce moment-là. Mais le choix était entre l'arrivée des islamistes au pouvoir et ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire l'interruption du processus électoral, donc un coup d'État par les militaires en Algérie. Mais comme je le dis, ou je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, depuis 1962, il y a toujours eu une succession de coups d'État ou d'événements qui ont abouti à la prise de pouvoir par l'armée. Et donc l'armée algérienne se réserve le droit d'intervenir quand elle le juge utile. Et en 1991-92, elle a estimé que le second tour des élections législatives donnerait, compte tenu de l'effet amplificateur du système électoral, donnerait une majorité aux islamistes, et elle a donc empêché cette arrivée au pouvoir des islamistes.
Et c'était des élections législatives, il y a à côté des élections présidentielles. Mais aux élections présidentielles, on a le sentiment que les candidats sont choisis, imposés,
oui,
justement par l'armée. Il y a un filtre.
Les candidats sont sélectionnés, choisis, imposés par l'armée.
Et
Chadli, qui était président de la République à ce moment-là, avait été choisi par l'armée parce qu'il était le général le plus ancien dans le grade le plus élevé. Mmh. Alors que Bouteflika, qui avait été ministre des Affaires étrangères et très proche de Boumédienne, estimait que c'était lui qui devait devenir président de la République.
Mmh. Mais les élections législatives semblent être différentes, puisque
c'est parce qu'il faut se rappeler que à l'époque, sous Chadli, donc à la fin des années 80, le gouvernement Mouloud Hamrouche et le gouvernement de Sid Ahmed Rosali, ces deux gouvernements ont été les partisans d'une certaine ouverture politique. Et c'est eux qui ont mis fin au monopole du FLN. C'est Hamrouche qui a mis fin au monopole du FLN et qui a autorisé le multipartisme. Et le multipartisme, c'était nouveau en Algérie, c'était 15 ans après l'indépendance. Tout d'un coup, les électeurs algériens avaient le choix entre de multiples partis. Et non seulement le FLN a perdu les élections, mais comme il y avait une crise économique des années 80, le prix du baril, il faut le rappeler, le prix du baril de pétrole était tombé à 5 dollars le baril. Donc les réserves de l'Algérie étaient à sec et les électeurs algériens se sont tournés vers le parti le plus populiste, c'était les islamistes, qui promettaient monts et merveilles dans une Algérie où la corruption régnait massivement.
Et cette expérience, cette ouverture, bien entendu,
l'ouverture, elle a donné lieu à la victoire des islamistes au premier tour des élections législatives.
48 ou 49%,
Les militaires se sont dit non, c'est pas possible.
Stop, ouais.
Donc on arrête.
Et ça n'a jamais été renouvelé, bien entendu.
Mais donc, à ce moment-là, ils ont démis le président Chadli et interrompu le processus électoral. Mmh. Et il y a eu ce qu'ils appelaient un haut comité d'État qui était formé de militaires et de civils et qui a assuré la transition après la démission de Chadli et l'appel à Boudiaf, puisque l'armée est allée chercher Boudiaf au Maroc.
Donc c'est un coup d'État militaire, en quelque sorte.
C'est un coup d'État militaire, mais oui. Encore une fois, l'armée a ce pouvoir-là en Algérie.
Oui. Qu'est devenu Chadli ?
Chadli, il est mort il y a 2-3 ans, je crois. Moi, je le voyais assez régulièrement dans les manifestations officielles du temps de Bouteflika. Il a démissionné et puis il était un personnage, un ancien président de la République. Zeroual également, qui avait démissionné en 1998-99, était aussi un personnage qui est mort il y a quelques mois, lui, pour le coup, au printemps 2026.
Donc vous nous expliquez que aux élections présidentielles, les candidats sont sélectionnés en quelque sorte, ou validés par l'armée, et maintenant aux législatives, c'est pareil.
Et aux législatives, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais encore une fois, la nouveauté des élections de 1991, c'était la première fois qu'il y avait le multipartisme. Aujourd'hui, le régime algérien qui voit les inconvénients du multipartisme s'est arrangé pour noyer, pour créer davantage de partis, pour noyer les uns et les autres, pour établir un système électoral qui donne quand même la majorité aux partis de gouvernement, FLN et RND. Et c'est plus seulement le multipartisme, mais c'est la multiplication des partis politiques qui fait qu'à l'Assemblée nationale...
Voilà. Mais tous ces partis politiques, même s'ils sont nombreux, sont liés au pouvoir d'une manière...
Oui. Même les islamistes d'aujourd'hui... Il y a un parti islamiste qui s'appelle le MSP, le Hamas, qui est largement liée au pouvoir et liée aux militaires surtout. Ce qui est paradoxal, parce que les militaires algériens qui ont combattu les islamistes pendant la guerre civile, pendant la décennie noire, aujourd'hui sont les alliés objectifs des islamistes, parce que les uns et les autres ont le même agenda politique, éradiquer l'influence française pour des raisons idéologiques pour les islamistes, parce que la France, c'est haram, c'est l'ennemi colonisateur, et puis pour l'armée, éradiquer l'influence française, parce que la France, c'est l'ennemi traditionnel qu'elle a combattu pendant la guerre.
Mais les islamistes de 2026 sont-ils les mêmes que
Non,
ceux de
non, parce
1992?
que ceux qui étaient dans la décennie noire, 90 à 2000, c'étaient les barbus en camis avec des kalachnikovs et qui vivaient cachés dans les montagnes du Djurdjura ou de Kabylie. Aujourd'hui, Bouteflika a mis fin à cela, il a établi un système de concorde nationale, et donc il a eu l'habileté de réintégrer les islamistes dans le jeu politique en leur pardonnant, ce qui a suscité beaucoup de critiques en Algérie, parce que les gens qui, dans les villages, avaient vu leurs voisins, leurs familles égorgées par les islamistes, voyaient revenir ces mêmes islamistes repentis qui avaient déposé leur kalachnikov, mais qui revenaient comme si de rien n'était. Et donc Bouteflika les a réintégrés dans le jeu politique. Et aujourd'hui, ce sont des islamistes, j'allais dire, beaucoup plus dangereux, parce qu'ils sont habillés comme vous et moi. Ils sont pas barbus, mais ils sont islamistes très idéologues.
Mais monsieur l'ambassadeur, pardon, quand vous nous dites qu'ils ont été réintégrés par Bouteflika dans le jeu politique, ça veut dire quoi? On leur a donné des places? On
Ça
leur a
veut
donné
dire
de l'argent?
on a créé un parti, les islamistes de Sa Majesté, si je puis dire, comme on dit en Grande-Bretagne, l'opposition de Sa Majesté. Ce parti, c'est le MSP, justement, qui a été au gouvernement,
Ah
qui a
oui.
été au gouvernement de Bouteflika, et on leur a confié, dans le fond, la gestion du commerce informel,
De quoi
c'est-à-dire du marché
s'agit-il?
noir, des douanes. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de la corruption. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des islamistes beaucoup plus dangereux, parce que non seulement ils sont habillés comme vous et moi, mais avec une barbe plus fournie que la vôtre et que la mienne, mais ils se sont enrichis dans le commerce pendant ces 15 années de... Ils tiennent beaucoup de commerce à Alger.
Mais ont-ils pour autant abandonné leur
Non,
idéologie?
non, non,
Ils attendent des temps
non.
qui leur permettront
Ils espèrent bien un jour venir au pouvoir, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même tactique. Ce n'est plus par les armes et la lutte armée, mais c'est par une tactique d'alliance avec le pouvoir en place, avec les militaires.
Et pensez-vous que les militaires en la matière jouent un jeu dangereux avec les islamistes?
Les militaires, je pense qu'ils ont compris la leçon des années 90 et aujourd'hui ils se sont convertis à l'islamisme, mais en voulant contrôler les islamistes, mais dans le fond en souhaitant un régime religieux en Algérie.
De se dire que les militaires sont aussi religieux.
Les militaires sont devenus très religieux. Ils
Ils...
l'étaient déjà pendant la guerre, dès
Oui.
1954,
Oui,
hein,
c'est ce que vous expliquez.
il y avait déjà l'influence de l'islam extrêmement forte. Mais ça a cru avec la décennie noire et les dernières années en Algérie. Les militaires sont aujourd'hui, je dirais, des alliés objectifs des islamistes.
L'Algérie a une constitution
Oui,
qui est assez proche, je crois, de celle de 1958. C'est ce que vous
elle a été
écrivez, je crois.
modifiée plusieurs fois,
Oui.
encore une fois par Tebboune en 2020, je crois.
Et cette constitution ne garantit pas la liberté de conscience, la liberté de
Non, elle ne
candidature.
garantit plus la liberté de
Oui, c'est ce que vous
conscience.
écrivez, oui.
Elle le garantissait sous Bouteflika. Aujourd'hui, elle garantit seulement la liberté de culte dans le cadre des lois de l'État. Donc, C'est très restreint, mais il n'y a plus la liberté de conscience.
Et il n'y a pas la liberté de candidature aux élections. Ce n'est pas dans la Constitution.
Si, mais dans la réalité, ça n'est pas. Il y a de telles conditions que, c'est ça, encore une fois, ça reste on ne peut pas être binational. Il faut être algérien de plusieurs générations. Il faut être musulman, évidemment. Il y a une liberté de candidature, mais qui est totalement encadrée et contrôlée. Ce qui fait que les candidatures aux élections présidentielles, elles sont tolérées, acceptées par le pouvoir ou téléguidées par le pouvoir.
On comprend mieux, monsieur l'ambassadeur, avec vos explications, la manière dont l'armée, en effet, tient le pouvoir de manière très, très concrète, et notamment cette relation complexe aussi avec les islamistes, qui est difficile à comprendre.
Difficile à comprendre.
Vu de France, comment
ça
fonctionne.
Nous avec nos schémas cartésiens.
Oui, ce n'est pas cartésien.
Et à 800 km de Marseille, ils ne sont pas cartésiens.
Oui, c'est très oriental.
Ouais, c'est l'Orient compliqué, mais qui a pigé et qui interprète nos codes.
Nous avons le message d'un auditeur qui vous remercie pour vos propos et qui vous pose la question suivante. Que pensez-vous que la Kabylie sera un jour indépendante?
Alors le sujet, non, je ne crois pas, en tout cas pas dans l'immédiat. La Kabylie a toujours été irrédentiste en Algérie, ça a toujours été une région d'abord pauvre, qui a été très tardivement conquise par la France. Et comme c'était une région pauvre, montagneuse, un peu, vous voyez, comme la Corse montagneuse et aride, beaucoup de Kabyles sont venus en France au temps de la Troisième République. Et l'émigration algérienne la plus ancienne, c'est l'émigration non pas arabe, mais l'émigration kabyle. Tous les chauffeurs de taxi à Paris, ils sont souvent...
sont kabyles.
Kabyles, je sais, ils me reconnaissent tous en général. Oui. Et donc la Kabylie a toujours contesté le pouvoir central d'Alger. Et le pouvoir central s'est toujours méfié de la Kabylie. Alors en ce moment, il y a des incendies de forêt en Kabylie dont on dit qu'ils sont provoqués par le pouvoir pour brimer cette région. Les élus kabyles sont très contrôlés et ils sont en général, ce sont eux qui sont choisis par le pouvoir pour être là aussi des opposants de service, les KDS comme on dit, kabyles de service. Et donc, pour répondre à la question de votre auditeur, non, il y a une telle répression en Kabylie, répression contre les Kabyles, contre les non-arabes, contre les catholiques, contre les protestants, que je ne vois pas très bien comment la Kabylie peut devenir indépendante. Et je ne suis pas sûr que les Kabyles le souhaitent réellement. Ils souhaitent une autonomie réelle dans le cadre de l'Algérie. Mais je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent tous l'indépendance. Et les opposants kabyles, ils sont en France. C'est le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui est en France.
Mais pourquoi l'autonomie et pas l'indépendance? C'est parce qu'ils estiment qu'ils sont trop petits, ou ils ne pourraient pas vivre seuls?
Non, mais parce qu'ils savent que l'indépendance, c'est quand même ce sera la crise avec l'Algérie.
Oui, c'est donc inaccessible, en fait. C'est pas réalisme.
Donc, voilà, provoquer une crise politique, militaire, armée avec l'Algérie, qui, encore une fois, ne tolérera pas que l'Algérie devienne indépendante. Tant qu'à faire, il vaut mieux une indépendance, mais une vraie indépendance, une vraie autonomie.
Oui, qui est plus réaliste.
Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'autonomie de la Kabylie. Hein. La Kabylie est très réprimée par le pouvoir central.
L'armée est très présente, j'imagine, la police aussi.
L'armée est très représentée, très présente. Vous avez des barrages sur les routes. Vous avez un exemple, j'ai voulu ouvrir un centre culturel français à Tizi Ouzou et j'ai été empêché pendant mes deux mandats. Parce que l'influence française, alliée à la Kabylie, et comme les Kabyles sont les plus francophones de la population algérienne, ne parlent pas tous arabe, sont francophones, ont émigré en France,
créer un centre culturel français en Kabylie, c'était une provocation majeure. Et donc, on m'a empêché d'ouvrir un centre culturel, de le réouvrir, parce qu'on en avait un qui a été fermé en 1994.
Mais vous, monsieur l'ambassadeur, donc deux fois ambassadeur de France en Algérie, en 2008 tout d'abord avec le président Sarkozy, puis en 2017 avec le président Hollande. Vous avez donc, vous êtes allé en Kabylie, vous avez rencontré beaucoup de Kabyles. Les Kabyles, c'est la population originelle.
Oui.
Ça, ce sont les Berbères qui descendraient des Phéniciens.
Avec les Juifs, c'est la population originelle.
Originelle, c'est ça. Parce que vous expliquez dans votre livre, il y a tout un chapitre que vous consacrez d'ailleurs aux Juifs, dans votre livre. Donc je rappelle le titre, l'Algérie 1830-2026, vérité et légende aux éditions Perrin. Donc, vous expliquez que les Juifs, en fait, ce sont des Berbères convertis.
Oui. Alors, les Juifs
convertis à la religion juive.
Oui, il y a plusieurs origines des Juifs d'Algérie. Il y a les Berbères convertis, il y a les Juifs qui ont fui la destruction du temple de Jérusalem, et puis il y a les Juifs venus d'Espagne, au moment de Isabelle la Catholique et de l'Inquisition. Donc, la population juive, elle était très nombreuse, parce qu'elle était, on l'estimait, à peu près à 300 000 Juifs au XIXe siècle, et en 1962, il y en avait encore 150 000. Et aujourd'hui, il y en a quelques dizaines.
Oui, la guerre civile, expliquez-vous.
Parce qu'il y a eu, entre-temps, il y a eu d'abord tout l'antisémitisme de la Troisième République, l'affaire Dreyfus, Drummond, l'auteur de La France juive,
député d'Alger.
Élu d'Alger.
Oui.
Donc il y a eu un antisémitisme très fort à la fin de sous la Troisième République. Il y a eu ensuite la création de l'État d'Israël, et beaucoup de Juifs d'Algérie sont partis vers Israël, ont fait leur alia. Et puis en 62, ceux qui étaient là, je me souviens et je le raconte, avoir rencontré une personnalité bien connue en France, Madame Cohen-Solal, qui a été maire du 5e arrondissement, que j'avais rencontré avec sa famille à Tipaza, et elle m'avait raconté que sa mère, avec qui elle venait en Algérie, en 62, elle a quitté l'Algérie pour la France, mais qu'elle ne connaissait pas. Les Juifs avaient été intégrés massivement par le décret Crémieux, dont la population avait été naturalisée française par le décret Crémieux. Donc ils étaient français, mais ils ne connaissaient pas la France, parce qu'ils venaient qui d'Espagne, qui d'Israël, qui de toujours berbères en Algérie. Et donc en 62, les Juifs d'Algérie sont rentrés en France, mais dans un pays dont ils avaient la nationalité et le passeport, mais qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça le drame des Juifs d'Algérie.
Mais ce décret Crémieux, quelle en est la raison? Puisque vous nous expliquez que la population juive d'Algérie est très ancienne.
Oui.
Pour certains d'entre eux, une origine commune.
Oui,
puisque ce sont des Berbères convertis qui vivaient en cohabitation, c'est ça.
Les Arabes, les Kabyles. Mais c'était après, d'abord, Adolphe Crémieux était ministre du gouvernement provisoire de la République.
Vous pouvez rappeler l'année du décret Crémieux?
Pardon?
Vous pouvez rappeler l'année du décret
Crémieux? C'est 1870. Et jusqu'en 1870, les Juifs, comme les musulmans du reste, pouvaient obtenir la nationalité française et la citoyenneté à certaines conditions s'ils renonçaient à la charia pour les musulmans, s'il renonçait à d'autres particularités pour les Juifs. C'était du cas par cas. Et Napoléon III avait déjà envisagé d'intégrer ou de naturaliser massivement la population juive, mais la chute de l'Empire a fait qu'il ne l'a pas fait. Et Adolphe Crémieux, ministre en 1870, a pris 8 décrets, dont la guerre en 1870, mais le décret le plus célèbre parmi ces 8, c'est le décret dit Crémieux, qui a naturalisé du jour au lendemain globalement tous les juifs d'Algérie. Et donc, ça a créé un problème parce que ces gens qui vivaient en cohabitation parfaite avec les Arabes, avec les musulmans en Algérie, du jour au lendemain, ils sont passés du côté du colonisateur, en quelque sorte. Ou en tout cas, ils ont été vus comme tels par les musulmans d'Algérie.
Mais pour quelles raisons de fond a-t-on mis en place ce décret? Parce que, à vous écouter, on a l'impression que les Juifs d'Algérie, dont l'histoire est plus ancienne même celle du colonisateur arabe du 7e siècle. Pour quelles raisons les a-t-on de force, en quelque sorte, ou par ce décret automatique, donné la nationalité française?
Parce qu'encore une fois, Crémieux était lui-même juif. Il y avait des Juifs en France qui ont poussé à cette naturalisation massive. Et puis parce qu'en 1870, après la guerre avec la Prusse, on avait besoin d'avoir de bons Français, de bons soldats français.
Et on pensait que l'intégration de ces Juifs d'Algérie serait plus aisée.
On estimait que les Juifs étaient...
étaient des cousins, en quelque sorte. Alors vous nous expliquiez quand même que leur implantation et leur culture, leur mode de vie étaient très proches des populations locales.
Et c'est pour ça que les populations musulmanes ont beaucoup critiqué le décret Crémieux et se sont dit, mais pourquoi eux, ils sont intégrés massivement français? Donc avec toutes les possibilités qu'offre le droit français. Et nous, musulmans arabes d'Algérie, nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone.
Était-ce pour ça?
Donc le clivage s'est fait à ce moment-là.
Oui.
Et ça a alimenté tout l'antisémitisme de Drummond et autres à partir de ces années de la Troisième République.
N'était-ce pas simplement pour une raison de nombre? Les Juifs étaient relativement peu nombreux, 100 000, je crois, vous citez ce chiffre, alors que les populations musulmanes, c'était quand même plusieurs millions. Est-ce que ça a joué dans...
L'Algérie était 300 000, les populations musulmanes étaient à l'époque de 3 à 4 millions, donc évidemment ça a joué. Et encore une fois, vous l'avez dit, on les considérait comme plus proches de nous, que les musulmans.
Néanmoins, on a quand même proposé...
Parce qu'il y a des juifs en Europe, en France, en Espagne, aux États-Unis, et donc on les considérait, si je puis dire, comme plus... plus proches de nous.
Néanmoins, on a quand même proposé aux populations musulmanes de devenir françaises à partir du moment où ils abandonnaient la charia, en fait.
En 58, De Gaulle... leur a donné à tous le droit de vote et la nationalité française.
Oui, et là sans condition.
Pardon ?
Sans condition.
Sans condition.
Sans condition particulière. Mais lorsque, après ce don, on leur a proposé la nationalité française en contrepartie de l'abandon de la charia, beaucoup ont suivi ?
Des musulmans ?
Oui.
Non, ça s'est fait au cas par cas.
Au cas par cas.
C'était assez rare. Les bachagas, il y avait des gens qui étaient les notables algériens.
Qui ont suivi à ce moment-là.
Oui.
Je voudrais revenir à ma question sur les Kabyles, puis je propose de conclure par cela. Oui. Si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, j'en profite pour rappeler votre livre aux éditeurs de Radio Courtoisie, L'Algérie 1830-2026, Vérités et Légendes, que vous publiez aux éditions Perrin. Nous avons beaucoup parlé de l'Algérie actuelle et du passé, et nous aborderons quelques autres chapitres à l'occasion d'une autre émission que vous avez acceptée. Voilà. Je vous en remercie, début décembre. Mais dernière question que je voulais vous poser, puisque notre auditeur, notre ami auditeur a signalé, a mentionné cette question sur l'indépendance des Kabyles. Vous avez rencontré de nombreux Kabyles.
Oui.
Est-ce qu'il y a vraiment une identité et une culture kabyle qui est différente?
Oui.
Est-ce que les gens sont vraiment différents? Et en quoi sont-ils différents?
Ils sont différents. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus francophones, francophiles. Il y a toujours eu une émigration kabyle en France, donc ils sont beaucoup plus proches de nous culturellement.
Mais il y a un caractère différent?
Oui. Et il y a moins le nationalisme arabe.
Oui.
Parce qu'eux, ils ont été persécutés par les Arabes.
Ils ne l'oublient pas, ça. Pourtant, ça date de...
Pas. Et par le pouvoir arabe central d'Alger.
Et toujours maintenant.
Donc, c'est un peu paradoxal, mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Oui. Xavier Driancourt, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct dans le studio de Radio Courtoisie évoquer ce livre, L'Algérie, Vérités et Mensonges, que vous publiez aux éditions Perrin. Je vous souhaite un très bel été, un très bon été, monsieur l'ambassadeur. Merci encore.
Merci, vous de même.
Merci.